la méditation proposée de Jacques de Sarrouk, c'est un évêque du 6e siècle, un évêque syrien. Les deux deviendront un en une seule chair. C'est que les femmes ne sont pas aussi étroitement liées à leur époux que ne le sont l'Église et le Fils de Dieu. La mort sépare les épouses de leur mari, mais ici c'est la mort qui unit l'épouse, qui est l'Église à son bien-aimé, qui est le Fils de Dieu. Et il est mort sur la croix. Il a livré son corps à sa glorieuse épouse. Et voici que chaque jour, l'épouse prend l'époux et le consomme à sa table. Ils sont un seul corps et du sang précieux sorti de son côté transpercé. Il lui apprête une coupe qu'elle devait boire pour oublier ses dieux innombrables. Avec lui, elle s'est oint d'huile. Dans l'eau, elle attira son époux vers elle. Elle le consomma sous la forme de pain, sous la forme de vin qu'elle buvait, pour que tout le monde reconnaisse que des deux, ils sont devenus un. Après la mort de son époux sur la croix, elle ne l'échangea pas pour un autre, mais elle aima sa mort, puisqu'elle savait que c'est dans sa mort qu'elle avait reçu la vie. Puisque ici, c'est la mort qui ennuie l'épouse au bien-aimé qui est le Fils de Dieu. Oui. Nous sommes le 27e dimanche du temps ordinaire. Et bien sûr, les lectures d'aujourd'hui sont des lectures qui concernent la dimension sponsale de notre appartenance à l'Église de Jésus. Par le baptême, nous sommes devenus des incarnations vivantes de la sponsalité par tous les sacrements d'ailleurs, par tous les sacrements que Jésus a institués. Nous sommes introduits dans l'indissolubilité entre le Fils unique de Dieu et l'Église, de sorte que les deux ne sont que un. Nefesh Echad. Un seul corps. Spirituellement, nous sommes bien d'accord que nous sommes dans la communion des personnes. C'est pour ça que ce n'est pas Roah Echad, mais Nefesh Echad. Puisque chacune des libertés, chacune des deux personnes, chacune des bonnes dans le mariage, dans la responsabilité, sont dans un face-à-face de lumière et dans un amour qui magnifie la gloire de chacune de leurs personnes. Il ne fait pas du tout disparaître. du point de vue donc, de l'incarnation, de la réalité, de la vérité et de l'éternité, du point de vue, et c'est pour ça que c'est du point de vue de la nefesh, c'est-à-dire vivante, de se mouvoir dans le temps et dans l'éternité. Les deux personnes s'effacent, si je puis dire, l'une dans l'autre. C'est pour ça qu'il est beau ce texte du bienheureux Jacques de Syrie, parce que c'est vrai que le mariage qu'il y a entre le Fils unique de Dieu et nous, je veux dire l'Église, Jérusalem glorieuse, et la Jérusalem, l'Église primordiale, autant que la Jérusalem glorieuse éternelle, c'est en disparaissant du point de vue par la mort, du point de vue de la nefesh, du point de vue du corps, que le mariage se réalise du point de vue du cœur, du point de vue de l'esprit et du point de vue de la communion des personnes. C'est beau le mariage pour ça, parce que si tu as le cœur qui est dur, tu ne peux pas te marier. C'est strictement impossible, mais si ton cœur, comme dit Jésus dans l'Évangile, si ton cœur est un cœur humain normal, tu peux te marier. Et c'est Dieu qui fait le mariage. Pour le mariage, pour être un nefesh echad, dans un seul corps, eh bien, il faut comprendre que le moi, l'égoïsme, on pourrait dire, la dureté du corps disparaisse, puisque dans la sponsorité, il n'y a que la gloire éternelle de l'indissolubilité de l'unité et de l'au-delà de l'unité des deux. On ne dira jamais assez, parce que le cœur, Moïse a donné quand même une tolérance. L'adultère, il est là. Comme il y a l'adultère, Moïse a admis une tolérance. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'acte créateur de Dieu. Ce n'est pas la sagesse créatrice de Dieu. C'est pas parce que il y a l'adultère à l'intérieur de l'égoïsme et de la dureté du cœur de l'homme et de la femme qu'on peut attribuer ça à Dieu. Il faut l'attribuer au péché. Au fait que il y a la haine véritable de Dieu dans le cœur de l'homme. Mais sinon, la responsabilité, elle est inscrite à l'intérieur de la créature de Dieu sur chacun d'entre nous. On n'existe pas pour autre chose que pour ce qui au-delà de l'unité de l'unité sponsale. La responsabilité, elle implique forcément la disparition de toute forme de division, de toute forme de séparation, de toute forme de divorce. La responsabilité fait que nous ne sommes pas seul avec quelqu'un qui est seul pour être deux. Nous sommes trois avec deux qui ont disparu. Parce que Dieu est amour et nous nous sommes créés du point de vue du corps, du point de vue du chair, du point de vue de l'individuation déjà. Du point de vue de la personne, nous sommes créés comme des êtres d'amour. Et l'amour et la mort sont une chose identique dans la responsabilité. C'est la mort qui fait mariage. Et c'est beau, puis c'est une deuxième chose. Il y a une deuxième chose qui, comme dit saint Paul, effectivement, hein, qu'est-ce que vous voulez, le mariage, l'homme et la femme sont quand même déjà une icône de la gloire, hein, de la gloire de Dieu à l'intérieur de lui-même. Et la gloire de Dieu et de la résurrection, et l'au-delà de la résurrection. C'est une icône, puisque c'est le mystère du Christ et de l'Église dans le mariage. Et le Fils de Dieu s'unit de manière responsable en mourant à l'Église. Et nous sommes chacun le tabernacle de l'Église. Par le baptême, par les sept sacrements. Et aussi par, et surtout par le débordement universel parce qu'il pénètre au-delà du temps, dans l'éternité de Dieu. De ces sacrements. Alors, et tu diras, voilà, à cause du fait qu'il y a une différenciation sexuelle, qu'il y a le masculin et le féminin en nous, dans l'homme et dans la femme, à cause de cela, dans le mystère de l'incarnation et de la résurrection, il y a quelque chose qui forcément doit disparaître, même dans le mystère de, pas seulement de la mort, mais aussi dans le mystère de la résurrection, quelque chose qui doit disparaître. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui perçoivent de manière imaginative, hein, que quand on ressuscitera, ben, on sera magnifié, quoi. Voilà. Tu te rends compte, c'est pas beau, ça. Saint François est d'accord, il a été humble, il a été, hein, Saint François. Mais aujourd'hui, quelle gloire! La gloire de Saint François d'Assise. C'est vraiment. Quelle gloire de Saint François d'Assise. Non. Il y a une manière diabolique de regarder les saints. C'est pas quelqu'un qui est magnifié et glorifié. Et moi, je veux être un saint. Ah bon, d'accord, tu veux être un saint. Et c'est pour ça que j'aime pas les autres. Parce que moi je veux être un saint. Je ne suis pas comme les autres qui ne sont pas le saint par excellence que je suis. Et ce schéma-là, ce schéma, c'est du bouddhisme, c'est une inversion satanique. C'est dans la mort que Jésus, que le Fils de Dieu est venu épouser l'Église. C'est en mourant, c'est en disparaissant que le corps du Christ est devenu un corps vivant, entièrement vivant, et entier, dans la disparition de tous ses membres et de lui-même à travers le mystère de la croix et l'au-delà de la résurrection, dans le véritable sanctuaire de la responsabilité. Et si vous regardez bien l'Église, ben, c'est l'hypostase, quelque part, de la femme. Et Jésus est dans le Fils de Dieu, c'est l'hypostase et l'icône de l'homme, de l'époux, de la première personne, de la personne. C'est fou ça, quand on y pense, n'empêche, à bien regarder. Si on a une vue contemplative, mystique, qu'on regarde, qu'on touche Dieu, qu'on le voit, Dieu, qu'on scrute l'être de l'intérieur en le voyant, les profondeurs de Dieu, crois que l'époux, c'est la première personne de la très sainte Trinité, et que le Fils de Dieu, en mourant sur la croix, dans cette sponsorité avec chacun d'entre nous, comme le tabernacle de l'épouse, le Fils de Dieu, lui, il disparaît à l'intérieur des grandes profondeurs scrutées, que scrute le Saint-Esprit, derrière du Père et du Fils. C'est extraordinaire le mystère de la croix de Jésus, quand même. Parce que, quelque part, l'union hypostatique de Jésus a emporté dans cette au-delà de la sponsorité, non seulement la nature humaine de Jésus, mais aussi la nature divine. Il s'efface, et ça nous est dit, ça nous est montré, et ça fait justement, c'est ce qui nourrit notre vie éternelle. Et c'est que si Jésus, dans sa nature humaine, son union hypostatique, a disparu dans la croix, c'est pour disparaître tout à fait dans sa personne, parce que éternellement, il ne cesse de disparaître dans sa propre personne, à l'intérieur de son principe, qui est un principe sponsal, qui est la première personne de la très sainte Trinité. Dans l'amour, on s'efface. On n'est pas seulement, c'est pas un mouvement d'effacement, c'est une disparition. Dans la demeurance de la très sainte Trinité, le Fils unique de Dieu, la lumière de Dieu, Dieu ne se contemple pas lui-même. Il ne se contemple pas dans sa personne, il contemple l'autre. Et il ne se regarde jamais lui-même. Jamais. Dans le face-à-face, il y a l'effacement. C'est joli d'ailleurs ça. Parce que forcément, dans le face-à-face, il y a cette sortie de soi, du soi qui n'existe plus, qui ne vit plus. Et cette rencontre de spiration active, d'une disparition active, éternelle et incréée, fait le mystère de la sponsalité. Et quand Dieu veut créer quelque chose, il le crée forcément dans la sponsalité, puisqu'il le fait dans le mystère vivant et éternel de la très sainte Trinité. Moi, je veux bien me marier parce que, comme ça, je serai heureux. Ouais, c'est beau ça. Moi, je veux bien me marier parce que, comme ça, je serai heureux. Mais le mariage, c'est pas fait pour être heureux sur la terre. Le mariage, c'est éternel, ça nous vient d'en haut. Mais celui qui n'aime pas Dieu, est-ce qu'il peut se marier? Non, il ne peut pas. Mais avec la grâce chrétienne et avec le sacrement de mariage, ah, c'est tout à fait différent parce que là on peut se marier parce que il y a la présence réelle de l'indissolubilité du mariage et qui dépasse toutes les contraintes, toutes les forces contraires, toutes les possibilités contraires, toutes les contradictions. Le Fils unique de Dieu, dans le Père, retourne sans cesse dans la lumière, son principe. Il n'y a que le principe de cette émanation qui existe pour lui. Et il aime ça, là, dans l'acte éternel du don de lui-même, dans la communion des personnes. C'est bien que quand, vous voyez, quand on parle par exemple de mariage sur la terre entre un homme et une femme, on ne va pas parler d'effacement, on va parler d'humilité. Ce qui n'est pas pareil. Mais pourtant, l'humilité, c'est dans la chair, dans l'incarnation de l'homme et de la femme, l'expression directe, analogique on dirait, et c'est une analogie propre de l'effacement qu'il y a entre, dans la communion des personnes de la très sainte Trinité. L'humilité substantielle fait partie de la nature humaine comme un appel. L'humilité substantielle fait partie de sa matière vivante. L'humilité substantielle fait partie de l'incarnation de sa vie spirituelle immortelle. L'humilité, et lorsqu'on est à l'intérieur de la grâce, et que la grâce s'écoule à l'intérieur de nous pour nous transformer, jusque dans la septième demeure du mariage spirituel, on est une victime d'amour éternel. Et donc, notre humilité substantielle se conjoint à l'effacement incréé éternel des personnes de la très sainte Trinité. Et c'est pas seulement un modèle, une icône de ce que nous devons faire, c'est la réalité de la présence réelle du sacrement de mariage. Et on dit toujours, moi j'ai entendu des milliers de fois de mes pères, que dans la bouche des pères qui m'ont transmis la vie spirituelle, que Marie ne s'est jamais regardée. Jamais. Jamais. Elle n'a jamais eu un seul regard sur elle-même. Ni dans ce qu'elle faisait, ni dans ce qu'elle était. Jamais. Elle n'a jamais regardé que celui dont elle était l'émanation. C'est beau d'ailleurs, Mystère Immaculée Conception, pour ça, parce que quand on sait que elle émanait de Jésus crucifié, du Fils unique de Dieu, et en même temps de son époux. Dans la roire et la nefèche de Marie, les deux étaient rades, hein. Ils étaient un. Dans cette considération, elle ne regardait que son principe. Et elle s'enfonçait et disparaissait dans son principe. Et son principe était double, parce que la femme est une incarnation. La femme est spirituelle, mais elle est incarnée, elle est réelle, elle est vivante, elle est tout amour, elle est profondément amour, elle est éternellement amour, immortellement amour. La mort ne peut pas effacer l'amour qui est en elle, ni dans sa chair, ni dans son esprit, ni dans sa personne. Et aussitôt, son Immaculée Conception, un premier acte qui est le sien de sa liberté, est entièrement tourné vers, et elle scrute les profondeurs de son principe, les profondeurs de Dieu. Elle ne s'est jamais regardée elle-même. Et en scrutant les profondeurs de Dieu, elle aperçoit certainement, évidemment, son inscription dans le livre de la vie. Mais son inscription dans le véhicule de la vie n'est pas elle, c'est l'au-delà sponsal de l'unité des deux dans le mariage le plus parfait, puisqu'il est conjoint, hypostatiquement. Et donc c'est bien que elle ne... C'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça que quand elle est toute seule, elle se retrouve toute seule au pied de la croix. Hein? s'engloutit dans les profondeurs intimes du Fils unique de Dieu, qui est Dieu vivant et véritable, qui s'efface dans le Père au moment de la croix. Il y a un effacement sponsal, et elle scrute les profondeurs de cette union hypostatique. Désirée, qui emporte la nature humaine tout entière dans cet effacement du Fils de Dieu lui-même à l'intérieur de l'époux, de la sponsalité principielle et éternelle de Dieu. Et donc elle ne se regarde pas non plus, pas encore moins elle-même à ce moment-là. Elle y est emportée. C'est ça qu'on appelle la transverbération. Et dans la transverbération, elle est assumée, elle est recréée à l'intérieur de l'indissolubilité, non pas seulement immortelle, mais pas seulement éternelle, mais aussi incréée de Dieu. Et quand elle est assumée, et bien Dieu la recrée. Il y a une recréation. Il y a une recréation à l'intérieur de l'éternité d'Assomption. Et c'est sa nouvelle annonciation, sa véritable annonciation. Mais comme elle est dans la chair, transverbérée, assumée, ben, c'est tout à fait normal qu'elle devienne la mère de Dieu, mais de manière royale. C'est-à-dire comme une émanation de l'incréé dans son éternité de chair assumée. Et cette nouvelle assomption, annonciation, fait qu'elle est obligée d'aller encore plus loin dans l'autre. C'est à cause de ça. Et toute sponsalité, la Vierge Marie, c'est jamais regardée elle-même. C'est à cause de ça qu'elle a engendré dans le Verbe de Dieu les poussins du Père incréé de Dieu. Et dans cette sponsalité incréée ou assumée en la transverbation à sa chair, eh ben, elle a engendré avec l'époux, le Père, les poussins. Qui est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Hein. Et elle a engendré dans la poussée de quoi se perdre, de quoi s'effacer cette fois-ci, dans le mystère de la résurrection. Je veux dire, dans l'au-delà du mystère de la résurrection, mais pour ça, il fallait passer par le mystère de la résurrection. C'est pour ça que Saint Joseph et Jésus sont ressuscités en même temps. C'est pour ça que ça rend très triste de voir quelquefois dans certains mariages chrétiens des gens qui se plaignent. C'est pas très marial, ça. Et Jésus, évidemment, il nous regarde dans la créateur de ce qu'il est et de ce qu'il crée. Il ne regarde que la sponsalité, hein. Il ne regarde pas ce qu'il y a dans l'arrêt de la sponsalité. C'est comme les prêtres. Eh bien, ils ne se marient pas. Mais c'est à cause de... Est-ce que tu es sûr que les prêtres ne se marient pas? Le prêtre, il y a une dimension sponsale à la mission naturelle, sacramentelle, sacerdotale. Il y a du prêtre. C'est ridicule de dire que Saint Joseph ne s'est pas marié. C'est ridicule de dire que Jésus a vécu toute sa vie humaine, son incarnation, en dehors du mariage. N'importe qui comprend ça, c'est ridicule. Une dimension responsable, bien sûr. Pourquoi ? Parce que le sacrement crée en nous les sacrements, mais sacerdoce aussi, bien sûr, fondamentalement, un acte créateur de Dieu, qui est plus grand que l'acte créateur originel d'Adam et Ève. Écrit de manière nouvelle, au corps, à la chair et au sang, d'être emporté dans l'effacement de soi-même, mais c'est pas un effacement d'ailleurs, mais c'est dans l'apparition de ce pourquoi nous avons été créés à l'image et ressemblance de Dieu. Dans la responsabilité, il y a une commotion. Il y a une commotion qui s'opère. L'amour s'impose à nous. Et l'amour ne vient pas de nous. Mais quand l'amour s'impose à nous, cet amour-là ne peut pas diminuer. Il n'y a pas de cause diminuante en responsabilité. Et quand l'amour s'impose à nous, nous sommes une autre création, nous ne sommes plus de la terre. Quand l'amour s'impose à nous, l'effacement, l'humilité substantielle est réelle. Et elle fait une commotion dans cette rencontre formidable de l'effacement mutuel, devant ce qui est au-delà de toutes les gloires symboliques, c'est pour ça que Jésus dit au ciel il y a ni homme ni femme, c'est plus que les anges de Dieu. Le Saint-Esprit, hein, n'est ni homme ni femme, il n'est ni époux ni épouse. Il ne peut rien rajouter à l'amour, puisqu'il en est l'émanation accomplie, éternelle, dans l'acte pur de responsabilité. Mais quand l'amour s'impose à nous sur la terre, hein, et que nous sommes hommes et femmes, nous sommes prêtres, par exemple, dans l'Église de Jésus, dans l'Église du Père, dans l'Église du Saint-Esprit. Quand l'amour s'impose à Adam, et bien cette responsabilité, elle réalise immédiatement un au-delà de de la communion des personnes. C'est beau, hein, vous voyez, pour un prêtre, par exemple. L'Église, je veux dire la Jérusalem, je veux dire l'épousait à quelque chose d'incarné, puisque nous sommes un seul corps dans le Fils unique de Dieu qui disparaît pour être épousé. Vous voyez, et c'est un don qui se fait à l'intérieur du Père lorsqu'il nous crée dans ce véritable sanctuaire et qui s'enfonce en nous dans un amour qui est mutuel. La vocation sacerdotale, c'est ça, c'est de le découvrir. Et cet abandon recueilli fait j'allais dire la profondeur de l'acte de réciprocité dans l'ordre du don, hein, et fait la nudité de ce qui n'est ni homme ni femme dans la vie sacerdotale, victimale, éternelle d'amour qui nous saisit corporellement Non pas seulement nous, le prêtre, chacun. Pas le prêtre, c'est pas le prêtre. C'est cette conjonction incarnée de la chair, du sang, et de l'hypostase. Lorsqu'il est incarné, chair, sang, de l'épouser. Et l'épouser, et bien l'épouser, c'est toute la personne s'effaçant du Fils unique de Dieu dans l'époux, et qui devient l'épousé. Mais il a pris chair, il est assumé. Et ça, ça comble. Évidemment que ça comble. Mais si tu ne vis pas corporellement la responsabilité de ton sacerdoce, que tu es prêtre, t'es le plus malheureux des hommes. Ça fait des gens frustrés, ça. C'est terrible de voir un prêtre frustré. C'est pas drôle pour lui. Moi, je dis surtout, c'est idiot. C'est idiot. Là, vous allez voir, ce mois d'octobre, forcément, hein, c'est l'an... va faire monter à la surface dans tous les journaux, dans toutes les télévisions, dans toutes les... ils vont étaler, hein, ils vont étaler le principe d'iniquité, d'injustice substantielle, pour montrer justement les prêtres de l'Église catholique. Ça va envahir tous les médias. Il n'y aura que ça. Et parfois, je veux dire, quelque part le démon a raison, mais et ben moi je dis c'est pas une honte, je dis c'est une grosse bêtise. Quelqu'un qui dit, moi, je vais être prêtre parce que je peux pas fonder de famille. Je peux pas. Parce que moi... je me vois pas dans l'amour, donc je peux pas fonder de famille. Je peux pas aimer les enfants, aimer les... Je peux pas. Vous voyez, on ne dit pas oui à l'ordination sacerdotale, parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Bien sûr que non. Mais bon. Et c'est pas forcé d'être prêtre. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas prêtre que du coup on n'a pas une vocation à l'amour. Hein. L'amour s'impose à nous. Hein. Et c'est pour ça qu'on rentre dans la charité, c'est-à-dire à l'intérieur de... Vous allez toucher corporellement et cordialement l'amour de Dieu. Et peut-être que c'est une chose qu'aussi qu'on n'a pas fait dès le départ. Lorsque Dieu nous a créés 9 mois avant la naissance, le pape Jean-Paul II nous a dit... Parce que Dieu nous a créés. Hein? Il nous a fait... il nous a donné une puissance parfaite dans la liberté du don, de nous donner entièrement au-delà de la mort. et dans la mort, et dans l'horizon de la mort de cette vie. La signification sponsale de notre existence nous est apparue de manière claire, évidente, et presque sans limite et sans fin, parce qu'il y avait aussi la présence de l'ange. Puisque si l'ange gardien nous est présent, c'est uniquement à cause de notre adhésion, notre acquiescement à la signification sponsale de notre vie, dès le premier instant de notre conception. Parce que l'ange, lui, ne sait pas ce que c'est que la sponsalité. Donc il se prosterne devant l'image ressemblance de Dieu qui est sponsale. Et il en est le serviteur. Et dès le départ de notre conception, parce que si à la propagation du péché originel, on reste fidèle et qu'on est adultère dès le premier instant de la propagation du péché originel, Saint Joseph, lui, il a bien été dans notre situation, mais il s'est retourné immédiatement en sponsalité. Et donc, peut-être qu'il y a une conversion à faire, hein, c'est de comprendre peut-être que, grâce aux enfants d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pour l'évangile du mariage et l'évangile des enfants qui s'approchent, que Jésus embrasse en les recréant, en leur imposant les mains, c'est-à-dire en faisant de chacun d'eux, de l'intérieur d'eux-mêmes, le terme terminant des missions invisibles des personnes divines. Il les recrée. Voilà, il y a une chose à faire dans notre foi, dans notre pénitence, dans notre conversion, dans notre transformation attendue par le bon Dieu. Permettre que nous soyons visités jusqu'au fond de nous-mêmes, dans ce péché, qui fait que on ne s'est pas éperdument englouti dans la signification sponsale de notre oui. Hein? Notre premier adultère, c'est 9 mois avant la naissance. Premier adultère, le premier égoïsme, parce que l'égoïsme, lorsque il est dans cette situation, ou c'est encore, j'allais dire, dans les odeurs, les parfums, les miracles, les trois éléments, cet égoïsme-là, si il persévère, il est forcément substantiel. Donc faut accepter de comprendre que Dieu, dans le Christ Jésus notre Seigneur et dans l'Église, dans la grâce sanctifiante, nous donne à nous une grâce inouïe, une grâce extraordinaire. C'est d'être recréé. Et il faut qu'on accepte d'aller jusqu'au fond de notre conception pour être revisité et recréé par Dieu. Il faut qu'on puisse demander pardon pour la manière dont le péché originel nous a liés à l'égoïsme substantiel de la transgression finale de l'humanité. Il faut quand même mais le pauvre prêtre, c'est pas seulement les prêtres, c'est une faiblesse. Oui, d'accord, bon Dieu nous pardonne, c'est évident, on est d'accord là-dessus. Il a été blessé. Mais j'ai été blessé. Non. Il faut accepter Il faut accepter que c'est pas à cause des blessures qu'on a des fragilités. Hein. C'est pas vrai. Ça, c'est le mensonge inouï de Freud. C'est le mensonge de l'athéisme. Mais non. Et donc, il faut accepter de demander pardon, de s'effacer et de désirer l'humilité substantielle. Hein, si tu veux savoir reconnaître le véritable Israël de Dieu à la fin, qui obtient le pardon et l'ouverture des temps dans le cinquième sceau, c'est-à-dire le pardon de l'origine, de la conception, toute conception humaine en nous, c'est ça. C'est les trois caractéristiques, c'est ça. L'humilité substantielle, l'effacement. Et la transverbération, le glaive, qui nous transperce, pour nous recréer depuis notre conception. Dans une conception nouvelle, qui est celle de l'immaculée conception, engendrant l'immaculée conception, dans toutes les conceptions visitées par un acte de contrition principielle, de l'Église principielle, primordiale, parce qu'elle rejoint la responsabilité de l'Église éternelle.